Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Steve Rivière. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Il y a un passage dans Luc 22 qui illustre un peu ce que Carl et Fanny nous a partagé. Au verset 31, où la parole de Dieu dit « Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Jésus prie pour toi, comme il a prié pour Simon. Mais quand Jésus prie ici, il dit ceci à Simon qui est Pierre. Il dit, Satan t'a réclamé. Comme disait notre précieuse sœur Fanny, la tempête ne vient pas de Dieu. Il dit, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Jésus n'a pas dit, j'ai prié pour toi pour qu'il n'y ait pas de tempête. Jésus n'a pas dit, j'ai prié pour toi pour que « Oh, Satan, arrête de te cribler !» Il aurait pu prier pour que Satan arrête de cribler Simon. Il ne l'a pas fait. Il a prié pour que la foi ne défaille point, même dans la tempête. Parce que notre foi est plus précieuse que l'or pour le Seigneur. Et notre foi est plus précieuse que notre confort pour le Seigneur. Et le thème de ce soir s'intitule « La foi en son nom ». Croire dans le nom de Jésus. J'aimerais commencer en nous rappelant ce que le pasteur Bruno nous a partagé avant le séminaire du pasteur Marc dans Jean 6. Au verset 28, il est écrit, ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Les gens questionnent Jésus. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Il dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Jésus répond, vous devez croire. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. L'œuvre de Dieu, c'est de produire en nous la foi. L'œuvre de Dieu, c'est la foi. C'est pour ça que la foi est précieuse pour lui. Il chérit l'œuvre qu'il fait en toi. Et ce qu'il fait en toi en utilisant les bonnes et les mauvaises circonstances, c'est qu'il veut produire la foi. Jésus dit, dans Jean 5, verset 17, il dit, mon Père est continuellement à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. Mais l'œuvre du Père et l'œuvre de Jésus, c'est de produire en nous la foi. Parce que à quoi sert-il que tu rentres dans ta destinée si tu n'as pas la foi ou si tu perds la foi? À quoi sert-tu que tu rentres dans la terre promise si tu ne crois même plus en Dieu après? Ce que Dieu chérit en nous, c'est la foi. Et c'est l'œuvre du Père. Il dit, mon Père est continuellement à l'œuvre. Et moi aussi, je suis à l'œuvre. Au verset 19, dans ce même chapitre, il dit, oui, je vous le déclare, et c'est la vérité. Le Fils ne peut rien faire par lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Jésus dit, écoutez, je ne peux rien faire par moi-même. Ce que je fais, je regarde le Père faire et ensuite je le fais. Et nous avons tendance à croire uniquement que Jésus devait, avant d'agir, avoir une vision ou entendre le Saint-Esprit lui dire « Va à gauche et à droite, fais ci, fais pas ça » pour agir. Oui, sûrement, mais cela n'est qu'une partie. Il arrivait parfois dans les évangiles où Jésus ne savait pas sur le moment ce que le Père voulait faire. Mais il connaissait que l'œuvre du Père, c'est de croire en celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Que l'œuvre du Père, c'est de produire la foi en nous. Un exemple, un jour Jésus marche, Il y a une foule qui l'entoure, les gens le touchent de tous côtés. Et là, il y a une femme qui perd du sang depuis plus de 12 ans. Et cette femme le touche, car elle s'est dit en elle-même, « Si je peux au moins toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » Elle touche Jésus et immédiatement, la puissance de Jésus-Christ la touche et elle est guérie. Et là, Jésus s'arrête et il dit, « Qui m'a touché ?» Et les disciples sont marrants, sont comme nous. Regarde Jésus, lui dit, « Seigneur, tout le monde te presse, quoi. Qui t'a touché alors là ?» Et Jésus dit, « Si, si, j'ai senti une force sortir au-dedans de moi. » Parmi la multitude de touchés qui a touché Jésus, il y avait un seul touché de foi. Et Jésus connaît que l'œuvre du Père, c'est de produire la foi. Et là, il s'arrête. Et il insiste. Et il dit, « Qui m'a touché ?» Et cette pauvre femme, ne savons plus quoi dire ni se cacher. Parce que la perte de sang d'une femme à l'époque faisait en sorte que la femme était impure. Et qu'elle devait être séparée, ne toucher personne. Mais elle a touché Jésus. Mais au lieu qu'elle rende Jésus impur, Jésus l'a rendu pur. Et là, démasquée, elle dit, c'est moi. Et elle raconte tout. Et Jésus la regarde et lui dit, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Parce que Jésus savait que l'œuvre du Père, c'est que vous croyez. Venir à l'église, venir à l'école biblique, c'est pour que l'œuvre du Père se produise en nous. Écouter la parole de Dieu, écouter un témoignage, c'est pour que l'œuvre du Père progresse en nous. Et l'œuvre du Père, c'est que nous croyons. C'est la foi. Il y a plein d'exemples comme ça dans les évangiles. Le centurion est un autre exemple. Il vient voir Jésus pour que Jésus guérisse un de ses serviteurs. Et Jésus lui dit, je vais venir. Et lui dit, non, ce n'est pas la peine. Dis simplement une parole et je serai guéri. Et là, Jésus s'arrête et dit, wow, même dans tout Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Dis qu'il soit fait selon ta parole. Parce que Jésus sait que l'œuvre du Père, c'est de produire la foi. Et que là, le centurion, ce qu'il dit, manifeste l'œuvre que le Père a fait en lui. Et Jésus collabore avec l'œuvre du Père. Jésus collabore avec la foi. Parce que l'œuvre du Père, c'est que nous croyons en celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Et nous devons croire en lui. Et croire en Jésus, c'est croire en son nom. Il y a plein d'exemples comme ça dans la parole de Dieu. Dans Jean 1, verset 12, il est dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient en Jésus et en son nom, elle a donné la parole, la puissance, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Croire en son nom. C'est ce que nous devons faire tous les jours, de manière pratique. La foi en son nom active la puissance. J'aimerais vous dire ceci, vous rappeler pour certains d'entre vous, parce que vous le savez déjà. Les intentions de Dieu ne se transforment pas toujours en action. Les bonnes intentions de Dieu, parfois, ne se réalisent pas dans nos vies. Parce que nous manquons de foi. Le plus grand exemple, c'est l'exemple du peuple d'Israël dans le désert, où Dieu dit à Moïse, voilà mes intentions, voilà ma volonté. Délivre le peuple d'Égypte, délivre le peuple de la main du Pharaon, et je vais le conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Et Dieu dit ça à Moïse, et Moïse dit, ouais, on va y aller. Et la première génération, malheureusement, est morte dans le désert. Les intentions de Dieu n'étaient pas que cette génération meure dans le désert. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les intentions de Dieu et ses actions. La rébellion, l'incrédulité empêchent les intentions de Dieu de devenir des actions dans nos vies. À l'inverse, la repentance, la foi permettent aux intentions de Dieu de devenir des actions dans nos vies. Parce qu'on doit collaborer avec lui par le moyen de la foi. Et dans le livre des Hébreux, les 4-5 premiers chapitres nous en parlent. Il parle de ce peuple qui devait entrer dans la promesse. Mais la Bible ne dit pas la promesse. La Bible dit qu'il devait rentrer dans le repos. Tu peux rentrer dans la promesse et être tourmenté. Il y a un souci là. Ça parle du repos de la foi. Et il dit, ce peuple-là n'est pas rentré dans ce qui était prévu pour eux à cause de leur incrédulité. Hébreux 4, verset 2 nous dit ceci. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. La parole ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. La parole n'a servi à rien. Vous savez, souvent on dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, c'est vrai, mais voilà un verset qui propose autre chose, qui dit, parfois on entend la parole, et elle ne trouve pas la foi, et ça ne sert à rien. Il faut que la parole trouve la foi en nous. C'est quoi trouver la foi? Chez ceux qui l'entendirent. Trouver la foi, c'est que lorsque tu entends la parole, elle produit en toi une réaction. Elle produit en toi quelque chose qui prouve à Dieu, qui montre à Dieu que tu as reçu avec foi. Elle produit par exemple la repentance. Elle produit par exemple une demande de pardon. La foi ressemble à quelque chose. La foi se voit dans ton comportement, dans tes actions, dans ton attitude. Une pensée animée par la foi est bien différente d'une pensée sans foi. Le comportement actif par une pensée de foi est différent d'un comportement qui est animé par une pensée sans foi. La foi ressemble à quelque chose. Et lorsque la parole est donnée, elle cherche, elle regarde si en toi elle trouve la foi. La foi peut être une réponse de reconnaissance et de gratitude. La foi, lorsqu'on est animé de la foi, dans l'esprit, la foi dégage un parfum. Mais malheureusement, l'incrédulité, la peur dégage aussi un parfum. La peur, c'est de croire en quelque chose de mauvais qui va arriver. La foi, c'est de croire en quelque chose de bon qui va arriver. Dans l'esprit, c'est comme si les démons et les anges voyaient quel parfum se dégage de ta pensée. Et quand il y a la foi, l'ennemi fuit. Et quand il y a la peur, Dieu n'approche pas. Parce que même lorsqu'on est criblé par les tempêtes, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions garder la foi. C'est ça son objectif. La foi ressemble à quelque chose qui active ton comportement, qui active ou déclare une parole, qui active une attitude. La foi est souvent empreinte d'humilité. Parce que l'humilité, on a vu ensemble, ce n'est pas moins penser de soi, c'est moins penser à soi. C'est pas pareil. Il faut être humble pour faire confiance en Dieu. Même lorsqu'on ne comprend pas. C'est comme je disais à mes enfants, il y a le florilège au tampon en ce moment, la fête pour ce florilège. Et franchement, je ne suis pas un fan de florilège. Et donc, je dis à mes garçons, à ma petite fille, papa et maman vont vous emmener la semaine prochaine au florilège. Je fais une promesse. Et je regarde si ma parole trouve foi en eux. Et dès que je dis, mes deux garçons font « Ouais !» Ils disent, On n'est pas encore parti, il faudra que j'y aille. Mais ils se disent, si papa a dit, c'est bon, on l'a reçu. Et quand tu reçois avec foi, ça produit une réaction. Ça produit un comportement. Ça produit une attitude. Le problème dans le désert, c'est que la parole de Dieu a été déclarée au peuple et ça n'a rien produit. Ça a produit la peur. Ça a produit l'incrédulité. Et ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Car l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est la foi. Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Satan t'a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Et quand Dieu nous fait des promesses dans la parole ou de manière prophétique, comme tu veux, est-ce que nous recevons cette parole avec foi? Quel est le langage de la foi que tu manifestes envers Dieu pour lui montrer que ce qu'il a dit, tu l'as reçu? La foi en son nom, croire en lui, produit une réaction. Comme mon petit garçon pour aller au florilège. Il n'est pas encore parti, mais il dit c'est bon, ça va le faire. Et quand Dieu nous fait des promesses, peut-être qu'on n'a pas encore reçu, mais on est dans le repos de la foi. On se dit c'est bon, ça va le faire. La foi en son nom. La foi en son nom ne nous permet pas uniquement, écoutez bien ceci, de rester sur la défensive. La foi en son nom, c'est une foi qui attaque. Souvent, on parle de la parole de Dieu, du bouclier de la foi. Et dans l'église, les chrétiens sont tout le temps en train de dire « Ouais, 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 j'ai la foi, je garde la foi, ouais, ouais, ouais. » Mais Jésus, son nom nous a été donné pour détruire les œuvres du diable. Pas pour caler uniquement les œuvres du diable. Pas pour bloquer uniquement les œuvres du diable, mais pour détruire les œuvres du diable. La foi en son nom n'est pas une foi qui active un bouclier uniquement. La foi en son nom est une foi qui active une attaque. C'est différent. Il y a un exemple fabuleux dans la parole de Dieu avec David. Dans 1 Samuel 17, au verset 45, David lui dit, « Toi, tu viens contre moi avec une épée, en parlant de Goliath, une lance et une autre arme. Et moi, je viens contre toi au nom du Seigneur de l'univers, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » David, toi, tu viens avec tes armes humaines, mais moi, quand je viens t'attaquer, c'est dans la foi, au nom du Seigneur de l'univers. Mais j'aimerais vous dire ceci, David n'avait pas le nom de Jésus. Imagine si David avait le nom de Jésus, ce qu'il aurait fait. Mais nous avons le nom de Jésus. Il y a un peu de géant pour te décapiter. David dit, c'est la foi en son nom. C'est au nom du Seigneur que je viens. Il y a un exemple dans le Nouveau Testament cette fois-ci où on voit l'apôtre Pierre et Jean manifester une action qui détruit les œuvres du diable par la foi en son nom. C'est lorsque dans le livre de Actes 3, il y a un mendiant qui dit « Donnez-moi de l'argent, il fait de l'aumône. » Et Pierre et Jean disent « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. » Et au verset 16, les gens sont étonnés de ce miracle. Écoutez ce que Pierre répond. Il dit, c'est par la foi en son nom. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. C'est la foi en son nom. Non, mais la foi produit une réaction. La foi produit une attitude, pas uniquement une attitude défensive, une attitude qui est capable d'aller de l'avant. parce que nous avons son nom pour détruire les œuvres du diable. Dans nos vies, le nom de Jésus est un nom incomparable. Dans Jean, au chapitre 14, Jésus dit ceci à ses disciples. Croyez-moi, quand je dis je vis dans le Père et le Père vit en moi, ou du moins croyez à cause de ses œuvres. Waouh ! Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. Amen. Moi, je prends si vous ne prenez pas. Parce que je m'en vais au Père. Et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom. Afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais ce soir, nous allons bien voir que le nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Même s'il y a la puissance dans son nom, devons comprendre ce soir, c'est quoi avoir la foi dans son nom. Ce que le Seigneur veut faire avec nous, Église Extravagance, ce soir, c'est nous affermir dans le nom de Jésus-Christ. Le nom qu'on porte, c'est son nom, et son nom est incomparable. Jésus ici demande à ses disciples de prier en son nom. Pourquoi on ne prie pas au nom d'Adam? Pourquoi on ne prie pas au nom de Moïse? Pourquoi on ne prie pas au nom de David, un homme selon le cœur de Dieu? Pourquoi on ne prie pas au nom de Marie? Pourquoi on ne prie pas dans le nom d'Abraham? Parce que le nom de Jésus est le nom incomparable. Et c'est ce qu'il nous faut comprendre ce soir. Pourquoi il est incomparable? Pourquoi il est unique? Le nom de Jésus est le nom élevé au-dessus de tout nom. Jésus n'a jamais failli comme David face aux femmes. Il n'a jamais failli face à Satan, face aux démons. Il n'a même pas failli face à la mort. Il a triomphé même de la mort. Il a triomphé des tentations. On ne parle même pas du péché, les tentations, il a triomphé. Il a été tenté comme nous tous. Mais aucune tentation n'a pu le dominer. Et il a même affronté la mort. Et il a triomphé de la mort. Jusqu'à la mort de la croix, nous dit la parole de Dieu. Et dans Philippiens 2:9, la parole dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tu vas comprendre dans un instant c'est quoi Seigneur. Pour que tu ne dis pas juste comme ça, mais... Il est Seigneur. Son nom est glorieux. Son nom est majestueux. Son nom est au-dessus de tout nom. Son nom est capable de faire fléchir le genou de tes dettes. Son nom est capable de faire fléchir le genou des querelles, des disputes dans les couples, de n'importe quelle addiction, de n'importe quelle maladie. Son nom est au-dessus de tout nom. Il est unique. Hébreux 1, verset 3 nous dit, ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même soutient tout par sa parole puissante. Après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom plus remarquable que le leur. Aucun nom d'ange n'a la dimension du nom de Jésus-Christ. Jésus est incomparable. Aucun autre philosophe, aucun autre gars d'une autre religion. Lorsque les démons entendent Jésus, ils font... Lorsque tu dis juste Jésus, c'est comme une onde de choc dans l'atmosphère. Mais plus tu as la foi en son nom, plus tu décuples la puissance de son nom. parce que ses intentions est que toi et moi nous puissions goûter à la puissance de son nom. Mais pour ça, pour que ses intentions deviennent action, il nous faut la foi. Je vous prends un exemple dans l'Ancien Testament d'un homme de Dieu extraordinaire, Moïse. Vous savez, Moïse, comme vous le savez, rencontre Dieu dans le buisson ardent et Dieu lui dit, écoute, va libérer mon peuple. Et il dit, attends-moi, qui je suis, tout ça, on va voir dans un instant. Mais à un moment donné, il va quand même et Dieu commence à réellement l'utiliser avec puissance. Et Pharaon s'énerve et il fait peser un fardeau lourd sur le peuple. Le peuple commence à dire, Moïse, tu m'énerves, c'est n'importe quoi ce que tu fais. Soi-disant, Dieu t'envoie. C'était déjà difficile avant que tu débarques. Et maintenant que tu dis Dieu t'envoie, qu'on doit partir, on galère. On travaille plus dur. On peine plus difficilement. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Moïse? Tu nous prends la tête. Et là, Moïse est découragé. Lui, pourtant, qui était parti voir Pharaon, disant, Pharaon, laisse partir mon peuple. C'est le Seigneur, le Dieu d'Israël, d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, le Seigneur. Et puis Pharaon fait ouais, au départ. Parce que l'ennemi ne va pas nous laisser partir aussi facilement qu'on le pense. Il est tenace. C'est pour ça que le royaume des cieux appartient aux violents, à ceux qui persévèrent. La foi ressemble à quelque chose. À la persévérance, par exemple. Lorsque Jésus marche et avec ses disciples, et à un moment donné, il y a un aveugle qui entend que Jésus passe et il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il s'appelait Timée, Bartimée, le fils de Timée. Et Jésus ne fait pas un compte. Et il ne voit pas, imagine, Jésus marche toujours. On pourrait dire, c'est un manque d'amour. On pourrait dire, nous, ça. L'aveugle marche avec un bâton sûrement comme ça. Les disciples vont dire, ferme ta bouche. Arrête d'importuner le roi, il ne fait pas un compte avec toi. Nous, on serait là, on aurait dit, ça c'est l'amour, ça. Et Jésus marche. Et l'aveugle crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus marche. Et plus fort, dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et là, Jésus s'arrête. Parce que la foi ressemble à quelque chose. Dans ce cas-là, à la persévérance. Et Jésus dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, que je voie. Qu'il soit fait comme tu le veux. La foi en son nom fera la différence dans nos vies. Et à un moment donné, pour revenir à l'histoire de Moïse, Moïse est dans la détresse et il va se plaindre avec Dieu. Il est fâché contre Dieu. Exode 5, verset 22. Une fois encore, Moïse s'adressa au Seigneur. « Ô Seigneur, dit-il, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé ici? Depuis que je suis allé parler au Pharaon de ta part, il maltraite les Israélites. Et toi, tu ne fais rien, bec à linette, en créole, pour sauver ton peuple. Toi, tu ne fais rien. » Il se plaint, Moïse. Tu m'envoies pour, soi-disant, délivrer ton peuple. Et regarde-la, regarde-la. Et le Seigneur lui répond, au chapitre 6. Le Seigneur répond à Moïse. Eh bien, maintenant, tu vas voir ce que je vais faire au roi d'Égypte. Ma main puissante l'obligera à laisser partir les Israélites. À cause de ma main puissante, il va même les chasser de son pays. Dieu parle encore à Moïse et lui dit, le Seigneur, c'est moi. Autrefois, je me suis montré à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Je ne leur ai pas fait connaître mon nom, le Seigneur. Là, il faut qu'on fasse une pause. Moïse est parti déjà voir Pharaon et lui dire, le Seigneur te demande de libérer son peuple. Mais quand il revient à ce plan à Dieu, Dieu dit, attends, Moïse, allons face à face. Viens un instant, regarde-moi bien dans les yeux. Il dit, le Seigneur, Moïse, c'est moi. pas Pharaon, moi, dit Dieu. Au cas où tu n'as pas bien compris, Moïse, je vais t'expliquer quelque chose. Tu vois, tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, je ne me suis pas révélé à eux comme je me révèle à toi. À eux, je me suis révélé comme le Tout-Puissant. Mais à toi, je me révèle comme le Seigneur. C'est pas Pharaon le Seigneur. C'est moi le Seigneur. Là, il est en train d'affermir la révélation dans le cœur de Moïse de la Seigneurie de Dieu. Et nous avons dit tout à l'heure, nous avons lu que Jésus est le nom élevé au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Mais nous sommes souvent comme Moïse. Nous parlons du Seigneur. Nous ordonnons aux pharaons de ce monde de nous laisser au nom du Seigneur. Mais nous n'avons pas bien compris ce que signifie ce nom. Et là, Dieu met une pause avec Moïse. Il dit, Moïse, je suis le Seigneur. Le mot ici fait connaître mon nom, le Seigneur. Le mot connaître, c'est le mot hébreu yada, qui signifie percevoir, apercevoir, trouver, discerner, savoir par expérience. Apprendre à connaître par révélation et expérience. Ici, Dieu dit, Moïse, tu es en train d'expérimenter une dimension de mon nom qu'Abraham, Isaac et Jacob n'ont pas connue. Tu es en train d'avoir la révélation de connaître par l'expérience que je suis Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut pour toi et moi, que nous puissions connaître le nom du Seigneur Jésus par l'expérience de la foi. La foi ressemble à quelque chose. La foi sans les œuvres est morte. Une œuvre ressemble à quelque chose. Et nous devons expérimenter, connaître par révélation et par expérience le nom du Seigneur Jésus. Ce que nous devons soupirer après ça. Mon cœur pour toi, le cœur du leadership ici, c'est que nous puissions soupirer après Jésus, désirer le connaître vraiment. Pourquoi ? Pour le faire connaître vraiment aussi. Le connaître et le faire connaître, c'est ça notre raison de vivre, c'est ça notre passion. Christ, notre vie, c'est ça. Croire en lui, croire pour connaître, croire pour connaître, croire pour connaître, croire. La foi sans les œuvres est morte, mais la foi avec œuvres nous va permettre d'expérimenter la puissance de son nom. Philippiens 3, versets 8 et 9, l'apôtre Paul dit « Connaître le Christ, Jésus, mon Seigneur. » Voilà le plus important. Point. Marque ça sur ton frigidaire. À mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j'ai tout abandonné, pour gagner le Christ et pour être uni à lui. Je considère toutes ces choses-là comme des ordures. Je ne suis pas juste parce que j'obéis à la loi, mais parce que je crois au Christ. C'est Dieu qui rend juste, et il rend juste celui qui croit. La seule chose que je veux, c'est le connaître, connaître le Christ. Tu dois soupirer après ça. Tu dois avoir faim de le connaître. Tu dois avoir soif de le connaître, bien plus que hier. Tu dois venir avec extravagance disant, Seigneur Jésus, j'ai soif de toi, j'ai faim de toi, je veux manger Jésus, je veux connaître Jésus, je veux connaître sa parole. Le connaître pour le faire connaître. Connaître Jésus, c'est connaître l'amour. Et faire connaître l'amour. 2 Corinthiens 5, 16 nous dit ceci. Ainsi, nous, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Même si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. L'apôtre Paul n'a pas connu Jésus selon la chair. Il dit, mais maintenant, nous ne connaissons plus Jésus selon la chair. Maintenant, nous le connaissons selon l'Esprit. Maintenant, nous découvrons la grandeur du Dieu qu'il est. Nous avons le Saint-Esprit pour le connaître réellement. dans la dimension qu'il est, avoir la révélation de qui il est, la révélation de son nom. Au verset Jean 16, verset 24, Jésus dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Jusqu'à présent, dans le contexte de Jean 16, Jésus parle de la résurrection. Et on a déjà vu ça, la résurrection parle en réalité d'une nouvelle nature, d'une nouvelle humanité, du second homme. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes une nouvelle créature. Et bref, c'est une parenthèse, juste un rappel. Et là, dans ce contexte-là, il dit jusqu'à présent, ça parle de sa résurrection. Lorsqu'il sera ressuscité, il y a quelque chose de grandiose qui va se passer au travers de son nom. Que signifie donc prier au nom de Jésus ? On a vu, ce n'est pas une formule. Prier au nom de Jésus, écoute bien ceci. Prier au nom de Jésus signifie prier en l'autorité de Jésus. Prier à la place de Jésus. Prier en la puissance de Jésus. Prier en représentant Jésus. C'est ça que ça signifie. Prier selon la volonté de Jésus. Si on l'utilise comme une formule et qu'on est en dehors de sa volonté, c'est pour ça que des fois ça marche pas. En son nom signifie selon sa volonté, de la part de Jésus, à partir de l'autorité de Jésus, à partir de la puissance de Jésus. C'est ça que ça signifie. Demandez en mon nom. Au nom de Jésus. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous, qui lisez les évangiles, vous avez vu Jésus prier au nom de Dieu ? Est-ce que vous avez vu Jésus devant un malade dire « Oh, toi qui es malade, au nom de Dieu Yahvé Rapha, celui qui guérit, sois guéri. » Ou sinon, Jésus arrive dans une famille, il y a des disputes, et Jésus fait « Oh, au nom de Dieu Yahvé Shalom, que la paix soit avec vous. » Tu as vu ça les évangiles, toi ? Moi non plus. Donc, est-ce que Dieu, Jésus, priait au nom de son Père ? Oui ! Mais on ne le voit jamais utiliser le nom du Père comme une formule. Jean 5, verset 43. « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. » Jean 10, verset 25. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Donc il faisait les choses au nom du Père. Pourquoi au nom du Père ? Pourquoi pas au nom d'Adonai ? Pourquoi pas au nom d'Elohim ? Pourquoi pas au nom de Yahvé, Shalom ? Pourquoi le nom du Père ? Écoutez bien ceci. Le nom du Père renferme tous les noms de Dieu. Toutes les qualités de Dieu qui est révélée dans l'Ancien Testament. Comme je suis celui qui est, comme il dit à Moïse. Je suis celui qui suis. Comme le Seigneur. Tous ces noms-là sont renfermés dans le nom du Père. Et Jésus agissait au nom de son Père. Il était tellement un avec le Père que ce qu'il faisait manifestait qui était le Père. Mais jamais on le voit dire « Lazare, oh, dans le nom du Dieu qui est la vie !» Il dit à la sœur de Lazare « Je suis la résurrection, je suis la vie !» J'essaie de faire comprendre ce soir, le glorieux Dieu qu'on sert est extraordinaire. Jésus, son nom est incomparable. Le nom du Père, pourquoi le nom du Père ? Parce que le nom du Père renferme tous les noms de Dieu. Pourquoi le nom du Père ? Pourquoi prier ? Il dit, lorsque vous priez le Père en mon nom, dit Jésus, le Père en mon nom. Pourquoi le Père ? Parce que seuls les fils sont capables d'utiliser l'autorité de Dieu, le Père. Pas les étrangers. Seuls les fils de Dieu. par elle, la parole, elle a donné le pouvoir à ceux qui croient en son nom de devenir enfants de Dieu. De devenir enfants de Dieu. De devenir enfants de Dieu. Priez le Père en mon nom. Pas prier l'Éternel des armées en mon nom. Priez le Père. Jésus est en train de nous dire, pour utiliser l'autorité de mon nom, il faut que tu te vois comme un fils. Il faut que tu aies la révélation que tu es un enfant de Dieu. Il faut que tu comprennes que porter son nom, c'est porter son identité. Et que tu portes son identité si tu appartiens à Jésus. Amen. Recevoir la parole avec foi. C'est pour ça que nous avons reçu l'esprit d'adoption également. Tous les noms de Dieu sont réunis dans le nom du Père. Et Dieu le Père a choisi de réunir toutes les qualités de son nom dans le nom du Fils. Jésus-Christ, le Seigneur. Il a choisi de réunir toutes les qualités des noms de Dieu dans le nom du Fils. Jésus-Christ, le Seigneur. Porter son nom, c'est réaliser qui tu es en lui. Regarde ton voisin un instant, dis-lui, tu es un enfant de Dieu. Regarde-le toujours, dis-lui, réalises-tu qui tu es en lui? Écoutez bien ceci. La foi, c'est pas uniquement croire que Dieu, croire en Dieu, c'est-à-dire. La foi, c'est aussi croire que Dieu croit en toi. Imaginez à la maison tes enfants, si tu es parent, qui vient te voir, qui doutent, qui sont toujours de ta famille. Imaginez à la maison un marmaille à chaque fois qu'il fait une bêtise, il ne sait plus si je porte le nom de Rivière, Gondin, Payette. Imagine, le marmaille est toujours fragile dans son identité. L'enfant, toujours, il ne sait pas qui il est. De quelle famille, toi, à l'école? Et parfois, les enfants de Dieu, on est comme ça. Parce qu'on ne comprend pas la portée, la puissance, la profondeur d'être un enfant de Dieu et de porter son nom. On croit qu'à cause de nos péchés, oui, il faut demander pardon, oui, il faut se repentir, oui, il ne faut pas pratiquer le péché, même si on pêche tôt ou tard tous. Mais je vais te donner cet exemple hier. Si tu as un voleur qui vient dans ta maison et casse une porte et que tu le récupères. Donc, à mon avis, en tant que bon chrétien, tu le cognes un peu, après tu demandes pardon. Non, je plaisante. Mais je veux dire, si quelqu'un étranger casse quelque chose dans ta maison, tu as une réaction qui sera différente de celle que si c'est un fils qui casse quelque chose dans ta maison. Si tes enfants qui mettent le souk dans ta maison, tu auras une réprimande. Mais est-ce que ton amour va être enlevé? Et nous, parfois, on est enfants de Dieu, mais parce qu'on galère, parce qu'on pêche, parce qu'on fait, n'importe quoi, eh bien, on pense que son nom est parti. Et à l'église, je reviens, redonne-moi ton nom, Seigneur. C'est pas ça. Et donc, on n'a pas la foi. On ne croit pas parce qu'on se sent coupable et condamné. On n'a pas la foi en son nom. Parce qu'on ne se voit pas comme des fils. Comme à un moment donné, Moïse, dans Exode 3, Dieu l'envoie et dit, mais qui suis-je? Et Dieu lui répond, je serai avec toi. On a déjà vu ça, mais je redis encore, j'aime ce passage. Moïse dit, qui suis-je? Dieu dit, je serai avec toi. Mais ce n'est pas une réponse à la question, ça. Et pourtant, si. Parce que Dieu voulait que Moïse réalise qu'il est celui avec qui Dieu est. Et ce soir, Dieu aimerait que tu réalises cela aussi. Que si tu es un enfant de Dieu, il est avec toi, l'Emmanuel. Et donc tu es celui avec qui Dieu est. C'est bon ça. Et tu es confiant dans ton identité en lui. Jérémie 15, verset 16 nous dit ceci. Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Elles ont fait ma joie et mon bonheur, car je porte ton nom. C'est bon ça, hein? Regarde ton voisin et dis-lui, tu portes son nom. Porter son nom, c'est parce que nous sommes ses enfants. Ça parle de connaître qui on est en lui, mais ça parle aussi de consécration, d'être uni à lui. Je vous prends l'exemple d'Abraham. Je vais vous poser cette question. Qui d'Abraham ou de Dieu s'est appelé le Dieu d'Abraham? C'est pas Abraham qui a décidé de dire que Dieu est le Dieu d'Abraham. C'est Dieu qui s'est identifié à Abraham. Et il a choisi de dire de lui-même qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie ceci, que les gens ne connaissaient pas Dieu, ils ne le voyaient pas. Mais en côtoyant Abraham, ils découvraient qui était Dieu. Parce que Dieu s'identifiait à Abraham. Cela signifie que les gens pouvaient connaître Dieu en connaissant Abraham. C'est pour ça qu'il est appelé le Dieu d'Abraham. Mais c'est aussi ton Dieu, mon Dieu. Et il aimerait que les gens puissent nous connaître, le connaître en nous côtoyant. Porter son nom, c'est porter le nom de l'amour. Porter son nom, c'est porter le nom de la paix. Porter son nom, c'est porter le nom de l'espérance. Porter son nom, c'est porter le nom de la joie. Porter son nom, c'est porter le nom du pardon. Porter son nom, c'est porter le nom de la réconciliation. C'est ce que Dieu veut que toi et moi nous faisions. C'est ce que Dieu veut que les gens découvrent au travers de toi. Dieu veut que tes collègues, ta famille, découvrent qu'il est l'Emmanuel. Ça signifie quoi l'Emmanuel? Matthieu 1, 23. Voici la Vierge enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. L'Emmanuel, c'est Jésus. Où est Jésus? En nous. Le nom élevé au-dessus de tout nom est en nous. Le Dieu d'Abraham, c'est aussi ton Dieu. Et si les gens ne le voient pas, mais en nous voyant, ils l'aperçoivent. Porter son nom, c'est apporter l'amour. Porter son nom, c'est apporter la paix. Porter son nom, c'est apporter le service. Porter son nom, c'est apporter l'honneur. Porter son nom, c'est porter l'humilité. Porter son nom, c'est développer dans notre style de vie qui on est vraiment. Des rois, des enfants de Dieu qui manifestent les qualités de leur Père afin que lorsqu'on prie et qu'on demande au Père en son nom, là il y a de la dynamite, là il y a du poids, là ça décape. C'est ce que Dieu veut que nous puissions vivre et grandir là-dedans. Avoir la foi en son nom, c'est pas une formule magique, c'est que les gens voient que tu portes son nom. Porter son nom, c'est porter l'intégrité. Porter son nom, c'est porter la fidélité. Porter son nom, c'est porter la loyauté. C'est ça, les enfants de Dieu. C'est ce que tu es. Et si tu as cassé un peu de porte de la maison, parce que tu dis, oh, j'ai pas été trop fidèle, oh, j'ai pas assez pardonné, tourne-toi vers lui. Dis juste pardon. Repens-toi. Reçois cette parole avec foi. Elle changera une attitude. Elle changera ton comportement. Je vais vous poser cette question. Comment les gens arriveront-ils à savoir que c'est le vrai Jésus, celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, si le Jésus en nous ne fait pas les mêmes choses que le Jésus dans les Écritures? Réfléchis à ça un peu. Comment les gens qui ne connaissent pas Dieu vont-ils savoir que le Jésus qu'on partage, c'est le même qu'il y a 2000 ans? si le Jésus qui est en nous ne fait pas les mêmes choses que le Jésus qui est dans les Écritures. Si c'est le vrai Jésus, il fera les mêmes choses. Et même de plus grandes, il a dit. Si on demande en son nom, si on transporte son nom, si on glorifie son nom, si on se voit comme un enfant, si on a la révélation qu'il est le Père, si on apprend à connaître qu'il est Seigneur par l'expérience de la connaissance de Jésus-Christ. Ce que je veux, c'est le connaître, dit Paul. Il y avait quelques exorcistes, comme vous connaissez dans Actes 19, qui voulaient faire comme Paul et dit au nom de Jésus que Paul prêche. Et comme on dit ici à La Réunion en créole, malheureusement, ils ont gagné un sac le cou. Ils ont été corrigés, maltraités par la personne possédée. Parce qu'ils étaient appelés les fils de Séva. Pas les fils de Dieu. C'était pas les fils du Père. Comment utiliser le nom, l'autorité du Père si tu n'es pas ses enfants? Il dit Jésus, je connais. Paul, je connais. Mais vous, qui êtes-vous? Mais toi, si tu es dans ce lieu ce soir, et que tu as accepté Jésus, et que tu aimes Jésus, et que tu portes son nom, tu es son enfant. Il est l'Emmanuel avec toi. Écoute bien ceci. Ce que Jésus est réellement pour toi, en toi, c'est ce qu'il sera réellement au travers de toi. Ce que Jésus est réellement pour toi, en toi, c'est le Jésus que tu manifesteras. Porter le nom de Dieu, c'est porter le nom de l'amour. Porter le nom de la paix, de la vie. Vous savez, on dit souvent que la prière de Jésus, c'est le Notre Père. En réalité, la prière du Notre Père, c'est la prière des disciples. Merci, Carl. La prière du Notre Père, c'est la prière des disciples, que Jésus apprend à ses disciples. La vraie prière de Jésus, c'est dans Jean 17. C'est ça la prière qu'il a réellement faite. Et dans Jean 17, il conclut sa prière en disant ceci. Je leur ai fait, au verset 26, je leur ai fait connaître ton nom. Avant de partir et mourir sur la croix, il prie. Là, sa prière de Jésus. Et il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Et que je sois en eux. What? Jésus dit, Père, maintenant je vais revenir à côté de toi et je prie. La mission que tu m'as donnée, c'est de leur faire connaître ton nom. Pourquoi? Pour que l'amour qui m'anime les anime aussi. Pour que l'amour qui est en moi soit aussi en eux. Connaître son nom, c'est connaître l'amour.